Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Du Trisac. L'original. Du Trisac.
Oh, bonjour tout le monde, c'est jeudi, quelle date, le 28 mars? Écoute, on est
pas... Hey, ton mois de mars achève!
Ouh. Ouais, mais avril, c'est pire, fait que ça va... Non, c'est pas vrai. Mars, c'est dur, c'est tough, c'est...
Pour le moral.
C'est... Ouais, ouais, pour le mien. Pour le mien. T'as vu que le 1er avril, tous les élus, les députés, les ministres, premiers ministres au fédéral obtiennent une augmentation de salaire automatique. Oh. J'ai lu ça dans le National Post aujourd'hui. Puis tu sais, genre,
ça se fait tout seul.
Des milliers de dollars là, à la fois sont rendus. Sais-tu combien gagne un élu? Rien, un backbencher là, qui fait du tricot, qui joue à... 203
000.
Quand même, sacramouille, quand même, 203 000. Puis, tu sais, Harper, en 2018, ouais. après la crise financière de 2008, a dit, on va y aller, mollo, tu sais, tout le monde a de la misère. Là, Justin, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Mais non, lui, il dit, go, les augmentations de salaire. Les gens ont de la misère à payer leur épicerie, ont de la misère à se trouver un logement décent. À un prix raisonnable, ça existe. Puis lui, Justin, go. Puis François Blanchet, du moins prendre le chèque. Puis toute la gang, tu sais, Poilievre aussi, moi prendre le chèque. Jack Mitzing qui parle des pauvres, tu sais, prends le chèque.
T'es pas capable de dire,
non,
pas nécessaire.
Avoir la défense.
J'en ai assez parce que j'ai quand même un bon rythme de vie.
C'est ça? Non. On va revenir là-dessus, je pense, demain ou la semaine prochaine, ou le 1er avril. C'est même pas un poisson d'avril.
C'est pas un poisson, non. C'est ça que j'allais dire. Mais c'est férié le premier, penses-tu qu'en plus, il double?
Ils sont en temps double chez eux. Bon, il y a Florence Lamoureux qui travaille ici, là, qui est journaliste à la recherche, qui va nous faire une promenade, une balade à Montréal. Je pense que ça va vous intéresser parce qu'on parle de Montréal, on dénonce l'état des rues, l'état des ruelles, comment on peut se promener à Montréal. Attendez de voir ce qu'elle a filmé lors de ses promenades pour venir travailler ici à Cube. Je pense que ça va vous intéresser aussi. On a le maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui est en sacramouille contre moi. Il est pas de bonne humeur, mais on va lui parler pareil parce que il veut revenir sur la conversation qu'on a eue avec GBD Construction qui disait ça se traîne les pieds. On a un projet de 400 portes à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On a des terrains. Ça niaise. On avait eu une entente en 2017. C'est toujours pas réglé. Là, le maire a été élu en 2021. On est rendu en 2024. Là, j'ai dit quelque chose comme il pense pas vite ou tu sais, pense pas vite. C'est de 2 ans et demi pour procéder, pour décider de construire des immeubles, des logements. Donc, on va l'avoir avec nous, ça va être agréable à midi 40. Mais tout d'abord, il y a Luc Dupont qui est avec nous, professeur au département de communication. Ah, c'est là, il t'a assez avant. Hey, c'est vrai, Luc Dupont est à midi moins 5 parce que c'est jeudi. Tu vois, j'avais oublié. Merci, Florence. De toute façon, Cybèle, elle se fait faire des mèches, elle est à la maison, là, elle va revenir toute belle demain. Merci, c'est Loïc Tassé parce qu'on est jeudi, puis oui. Loïc, ça a l'air de rien, hein, mais il enseigne à l'université. Regarde ça. C'est un beau bonhomme qui enseigne à l'université. Donc on le passe avant tout le monde. Loïc, bonjour.
Salut Benoît.
Ouais, j'ai pas tes sujets là. On va se coordonner. Ah, Florence, ça me prendrait les sujets, s'il te plaît.
Je vais te parler d'Indiana Jones. Ah, ouais. Premier sujet.
Oui.
Non, sérieux.
Ben, je te
Indiana
crois.
Jones, Netanyahou. Tu sais, Netanyahou, tout le monde nous dit arrête d'aller après le Hamas. T'arriveras pas à tuer tout le monde dans le Hamas. Non. Il vient me dire. Il m'en reste le numéro 1 puis le numéro 2 à tuer puis je vais gagner. On lui dit non, regarde, tu seras pas capable de le faire. Tu sais, Indiana Jones, quand il essaie d'avoir le Saint Graal puis que la terre s'ouvre à l'entrée du temple, que les méchants essaient de l'attraper, lui-même essaie de l'attraper, puis à un moment donné, il renonce parce que tout le monde sait qu'il va tomber dans les profondeurs de la terre. Ben c'est ça Netanyahou en ce moment. Il essaie d'avoir son Saint Graal, il essaie d'aller attraper les derniers dirigeants du Hamas, puis là, la terre est en train de s'ouvrir sous lui. Les Américains disent qu'ils vont le lâcher. T'as l'ONU au Conseil de sécurité qui dit non, c'est un cessez-le-feu qu'on veut. Comment est-ce qu'ils pensent gagner réellement, complètement contre le Hamas en allant chercher les gens? C'est une guerre qui est d'abord et avant tout idéologique. Puis s'il peut pas la gagner autrement. Puis ensuite, c'est une guerre qui est politique comme telle. Il faut qu'il y ait deux États.
Ouais, mais sans en même temps, c'est
non mais l'idéologie qui gagnera pas.
Ouais, mais je pense. Je connais rien, mais il me semble que tu as raison parce que tu as beau décapiter.
Est-ce que Indiana Jones?
Ben, un peu. Mais tu as beau décapiter la Hamas, il y en a toujours un autre qui va pousser derrière.
Ben, il y en a toujours un autre qui va pousser derrière, mais si tu mets en place une autorité palestinienne réelle, si tu mets un vrai gouvernement en place, si tu désamorces toute la question nationale en donnant enfin aux Palestiniens un vrai territoire qu'ils vont diriger eux-mêmes. En contrôlant l'armement, là, on comprend que la défense, ça doit être contrôlé, puis tu veux pas que le Hamas en ait. C'est sûr qu'il va tenter de renaître. C'est sûr qu'on en a pour quelques décennies avec du terrorisme, etc. Mais si, les gens vont voir que ça va mieux sans le Hamas, puis que ça va bien avec leur territoire, puis ils vont finir par s'entendre éventuellement, comme la France et l'Allemagne, qui se haïssaient au point de se faire la guerre.
Ouais, mais.
On finit par s'entendre aussi.
Ouais, mais, tu sais, quoi qu'on en pense, je dirais pas les nazis, là, mais il y avait comme un fond de civilisation commune. Tu sais, essaie de parler au Hamas qui, lui, dans
le temps. Il y a un fond de civilisation commune entre les deux, totalement. Mais le problème, c'est que tu as des extrémistes religieux de part et d'autre qui veulent rien entendre. Ouais. Alors, faut que tu luttes contre les extrémistes religieux du Hamas. Ouais, faut que tu lises aussi contre les extrémistes religieux israéliens.
Ouais, ouais, ouais.
Ça aussi, faut lutter contre ça. Ouais. Ça va prendre des années à faire. C'est pas en allant tuer les dirigeants officiels du Hamas que tu vas régler la question. Et c'est là que je dis, ça fait vraiment penser à Indiana Jones puis au Saint Graal. Tu sais, la terre est en train de s'ouvrir littéralement sous Netanyahou, sous Israël. C'est pas ça la solution. Tout le monde le sait, tout le monde le voit.
Mais en même temps, pas Netanyahou. Moi, je reviens toujours, je sais que c'est simpliste, mais le 6 octobre 2023, il y avait un cessez-le-feu. Il y avait des roquettes de temps en temps, parce que le Hezbollah, la Hamas, là,
c'est des obsédés. C'est le problème.
Ben, je le sais.
C'est les extrémistes qui sont les problèmes.
Ben, ça en est. Ce ne sont que des extrémistes, la Hamas.
Je te l'ai souvent dit. Le Hamas, là, il faut absolument l'exterminer. Le Hamas. Pas les Palestiniens.
Ben non.
Pas les Gazaouis. Mmh. Ceux qui sont à la tête de ça, il n'y a rien à entendre. Je pense pas que de toute façon, ce sont des soldats qui vont se battre jusqu'au dernier. Alors, ils vont mourir à la guerre. C'est comme ça qu'ils vont être exterminés. Mmh. Mais en même temps, il faut que tu fasses autre chose. Et il est presque rendu là, en fait, Netanyahou. Moi, je pense qu'il est en train, en fait, de dire, bon, écoutez, symboliquement, là, j'aimerais bien attraper le numéro 1 puis le numéro 2. Mmh. OK. Puis il a dit même que les gens qui sont
Hamas,
se déplacent dans le nord.
Mais que le Hamas libère les otages, puis négocie, puis on va passer. Ben, c'est ça le problème.
Il le fera pas. Ben, c'est ça le problème. Il en reste combien?
Ben,
il le fera pas.
Ouais. Est-ce qu'on a les images de l'Université McGill, Jean-François? T'es a pas? Non, c'est ça, c'est Tristan qui va les avoir tantôt. Mais j'ai vu des images passer à l'Université McGill, là. Encore des étudiants avec le foulard palestinien là, qui gueule dans un...
Correct,
qui
cogne c'est un problème.
Là, moi, c'est un problème. Qu'est-ce que tu fais là?
Ben, qu'ils aient le foulard palestinien, c'est pas
non,
un problème.
Non, qui gueule, qui manifeste, qui intimide des gens. On l'a. Regarde ça, Loïc. Regarde ça, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête, là. Puis là, tu sais, c'est à Montréal, c'est dans toutes les grandes villes, puis c'est sans cesse, ça. C'est du bullying. OK, je t'en prie, Jean-François. C'est-tu normal, ça? Est-ce que c'est normal de tolérer ça à l'Université McGill?
N'importe quelle université.
Un cours.
Pourquoi est-ce qu'il cogne à la porte?
Parce qu'il y a un cours.
Ben non.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, comment tu négocies avec ça?
C'est une toute petite minorité de gens qui fait ça. Puis, tu sais, l'université peut prendre des sanctions puis leur dire, écoutez, là, vous êtes en train d'interrompre un cours.
J'ai hâte de voir ça.
Puis vous n'allez pas faire ça. Non, McGill a très peur. Mais... Mais non, les universités, quand même, ça tienne. Puis, tu sais, peux pas endurer, effectivement, ce genre de choses. Un dialogue, oui, mais tu sais... Et encore une fois, le problème en Palestine, c'est le Hamas. Mmh. Et le problème en Israël, c'est les extrémistes religieux. Mmh. Puis, il y a un problème, on a un problème avec les extrémistes religieux de plus en plus, mais on veut pas le dire, il y a des gens qui ont peur de le dire, mais non, malheureusement, là, il faut rentrer là-dedans puis dire non, ouais. Ça marche pas, on peut pas faire ça.
Bon, parle-nous, la France et le Brésil, Loïc.
Ben, la France et le Brésil se sont officiellement rencontrés parce que Macron est au Brésil où il rencontre Lula. Et, oh, surprise, Macron a fait deux déclarations qui sont assez intéressantes. D'abord, il a dit, vous savez, là, le grand traité de libre-échange du Mercosur, c'est le Brésil, c'est l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Enfin, j'en veux pas. C'est un très, très mauvais traité. C'est un traité qui a pas de clause, suffisamment de clause de réciprocité. Et puis, c'est surtout un traité qui parle pas d'environnement. Je n'en veux pas. Par contre, a-t-il dit au Brésil et aux gens, on peut négocier autre chose. On peut négocier quelque chose de mieux. On veut quelque chose de mieux. Oui, mais en fait, la semaine dernière, son Assemblée nationale a rejeté un très bon traité de libre-échange avec le Canada. Et c'est ça le fond du problème. Il y a des problèmes en agriculture. Et d'ailleurs, il y en a parlé de l'agriculture en disant, il faut qu'on ait des clauses qui protègent l'agriculture de part et d'autre. Donc, c'est très intéressant de voir qu'il ne veut plus lutter contre ça. Au contraire, il se range du côté de ses agriculteurs et il veut renégocier des choses. Peut-être que ça indique quelque chose pour le traité de libre-échange, je ne sais pas, avec le Canada. Est-ce qu'il est toujours possible de négocier? Difficile à dire, surtout si ça a déjà été signé, je pense pas, et ratifié par plus de la moitié des pays européens, je pense pas. Mais ça t'indique son état d'esprit. Mais l'autre chose qui est très intéressante, c'est qu'il a dit à Lula, « Hey, est-ce que vous aimez ça, les sous-marins? » Parce que, vous savez que la France a des sous-marins nucléaires. On pourrait vous en vendre un ou deux, là. On pourrait faire des sous-marins nucléaires avec vous. Et tu te souviens de toute la saga des sous-marins nucléaires français en Australie, les Australiens qui ont laissé tomber le contrat nucléaire avec les Français, pas parce que c'était des mauvais sous-marins, mais parce que ça impliquait en fait la protection de la flotte française dans le Pacifique. Puis entre la protection de la flotte française et de la flotte américaine, c'est curieux, les Australiens ont choisi la flotte américaine, et on les comprend de ce point de vue-là. Ils auront plus le contrat, ça leur a coûté très cher. Mais en ce moment, les Français disent, enfin, Macron dit aux Australiens, hey, on peut travailler ensemble. C'est sûr que vous ne ferez pas de bombe atomique, n'est-ce pas? Non, donc c'est parfait. On va travailler ensemble et on va faire, on va fabriquer ensemble des sous-marins nucléaires. Alors voilà le si tu veux ce que Macron essaie de faire maintenant. Il essaie de vendre ses sous-marins nucléaires. Et s'il les vend au Brésil, ben il va probablement essayer de les vendre à d'autres pays aussi.
Une porte d'entrée hein, au marché qui est quand même énorme. Mais là, au Mexique, ce que tu as à nous annoncer, Loïc, ça augure mal.
Il y a au Mexique, dans la ville de Mexico et au nord jusqu'aux États-Unis, une sécheresse qui perdure depuis 20 ans. Et ça va tellement mal que dans la ville de Mexico, depuis quelques mois, on ferme l'eau, on prive les citoyens d'eau et des centaines de quartiers. Tu sais, il y a 20 millions de personnes à Mexico, c'est une des plus grandes villes au monde. Donc on est en train de fermer des quartiers et on manque d'eau. On manque littéralement d'eau. On envoie des camions-citernes dans certains quartiers. Les quartiers pauvres, les riches, c'est curieux, n'ont pas de problème. Mais dans les quartiers pauvres, eux doivent payer pour l'euro. Et le problème, c'est qu'on se dit, oui, mais attendez, là, il est supposé y avoir de la pluie en mai, juin, mais est-ce qu'on va en avoir? Et si on n'en a pas, les ingénieurs prévoient que d'ici le 26, ils ont même mis une date, d'ici le 26 juin, il n'y aura plus d'eau dans les robinets. Oui. Plus d'eau à Mexico. 20 millions de personnes qui n'auront plus d'eau. Et c'est d'autant plus remarquable que, comme tu sais, la ville de Mexico a été originellement construite sur un lac. Plus d'eau. Alors, ça te montre la gravité des changements climatiques. Et évidemment, cette ville a des problèmes qui sont des problèmes immenses. Je ne sais pas comment on peut arriver à approvisionner Mexico avec de l'eau. Tu sais, c'est en plein centre du pays, dessaler de l'eau, mais ça prend des pipelines qui amèneraient de l'eau douce. C'est faisable. Ouais. Mais à quel coût? À quel coût?
Ouais. On en parle depuis longtemps. Hein? Les guerres de l'eau, ça va être par région, mais ça, s'il n'y a pas d'eau, 20 millions d'habitants, le Mexique ne va pas tolérer ça très longtemps.
Mais c'est le cœur du Mexique, mais où est-ce que tu veux qu'ils prennent leur eau? Ouais. Et ce qui va arriver aussi, c'est que tu vas avoir des gens qui vont déménager. ils auront plus d'emplois, ils vont perdre leur emploi, les usines vont fermer.
Ouais.
Il y aura de moins en moins, il y aura des problèmes agricoles de plus en plus.
L'immigration massive qu'on connaît est expliquée en partie par ça aussi, là, ces phénomènes-là.
Oui, dans le sud, moins, si tu veux, mais au Mexique, oui, c'est expliqué par les guerres, puis par le fait aussi que les gens veulent les avoir, cartels, pensent qu'ils vont gagner mieux gagner, exactement, et qu'ils vont mieux gagner leur vie au nord, ce qui est pas évident. Mais l'exode massif dont on parle parfois, ça en vient, puis on le voit très très bien avec Mexico, avec ce qui se passe à Mexico. Écoute, 80% de l'eau va à l'agriculture et à l'industrie en général. Les gens en prennent que 20%. Mais s'il n'y a plus d'agriculture, s'il n'y a plus d'industrie, qu'est-ce que les gens vont faire? Alors, il y a vraiment un problème extrêmement grave à Mexico en ce moment.
Très bien. On se reparle demain, Loïc. Bon cours tantôt.
Salut, à demain.